wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Série. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, en public, du Bel Air, le bar de l'Amigon de la radio, Mathilde Serrel, Iris Bray et Joseph Gosn pour parler ensemble de Fleabag, saison 2, Mouche, saison 1, jeu d'influence, un coup de cœur de Joseph Gosn qui a changé, son cœur est changeant. Il va finalement parler d'ABC contre Poirot. Moi je suis malade, hein, ça va s'entendre pendant toute l'émission, donc voilà, j'ai toussé parfois. Il y aura un petit salon de Boris Pinault ce soir, qui sera consacré à la façon dont les séries se concluent, ce qu'on peut attendre de leur fin. Nous ouvrons cette dispute avec Fleabag, dont la saison 2 vient d'arriver sur Amazon Prime Video. Ce qui concerne la France, c'est une série de Phoebe Waller-Bridge. La première saison de Fleabag m'avait, je dois le dire, totalement bouleversé après trois épisodes irrésistibles de drôlerie. Les trois épisodes suivants glissaient terriblement vers le drame. Je m'y attendais pas. L'auteur et l'interprète principal de cette sitcom adulte éclabousse le petit écran de son talent tout à fait hors norme. Avant de livrer enfin donc cette saison 2, Phoebe Waller-Bridge a signé la saison 1 de Killing Eve, quand même l'une des meilleures séries de 2018. Autant dire que l'attente était grande concernant la suite des aventures de la jeune femme célibataire, avide de sexe, ne trouvant sa place ni dans une société bien trop guindée pour elle, ni au sein d'une famille, il est vrai, assez dysfonctionnelle. Pendant ce temps-là, en France, nous en parlerons dans quelques minutes, Jeanne Herry a réalisé le décalque, presque à l'identique, de cette série, donnant à Camille Cotin la lourde charge d'incarner l'héroïne. La série s'appelle Mouche, elle est visible sur Canal+, on l'évoquera après avoir parlé de Fleabag. Donc on commence par Fleabag, il y a une première impression, une synthétisation du propos que vous allez développer. Mathilde Serrel.
À dévorer tout cru.
C'est bien dit. Joseph Gosn.
J'aime beaucoup.
Iris Bray.
Meilleure série de la décennie.
You know when you've done everything?
What?
And you've even...
Do you want to have sex?
No. And you feel great. And even though your sister still hates you...
Thank you.
You're pretending to be friends because your dad is... I'm joking, he's just there.
Here's to love.
Hey!
So why do you think your father suggested you come for counselling?
Because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. I'm good at this.
You close with your family?
Is that fair?
Yes, but it's okay because it had a stroke.
Oh, lovely.
We get on with it. Hi.
Thought you'd be in prison by now.
Oh, well, keep trying, but they just won't have me.
You look strong.
Oh, my God!
Are you?
Oh, I'm a pretty normal person.
What makes you a normal person?
Well, I don't believe in God.
I love it when he does that.
Don't sleep with him.
I won't.
Don't.
I won't. I don't do that anymore. What?
You want to go and have sex?
That's better. So, I read your book. Do you think I should become a Catholic?
No, don't do that. I like that you believe in a meaningless existence.
You know how to love better than anyone else. That's why you find it all so painful.
I don't find it painful.
That's my soul, that's the way it is.
Amen.
Je sens que je vais avoir aucune nuance parce qu'il suffit d'entendre la voix de Phoebe Waller-Bridge, moi je fonds complètement, je la trouve absolument irrésistible pour les meilleures raisons qui soient. Mathilde Serrel, alors, développons ce premier propos extrêmement percutant que vous avez eu à l'instant.
Non, mais quand je dis à dévorer tout cru, c'est parce que c'est enfin cru.
cru comme j'aime, comme je pense qu'on, c'est-à-dire c'est jouissif de vérité, et ça dit les choses extrêmement crûment, non seulement sur le plan du vocabulaire, mais aussi sur le plan de ce qu'on est par rapport à soi, de ce qu'on est par rapport aux autres. Et je pense qu'il y a eu une sorte de filtre dans les séries, on va dire dites un peu féministes, ou en tout cas quand Sex and the City est arrivé, les filles parlaient librement de sexe, et ça, soi-disant, c'était cru, mais en fait elles se réunissaient entre elles, complètement obsédées par la consommation. Elles avaient un rapport aux garçons, je pense, qui était surtout de trouver quelqu'un et de se caser. Pas du tout être un rapport libre par rapport à l'existence. Et par ailleurs, voilà, c'était un petit peu torride. Enfin, c'est gentil à côté. Et surtout, c'est pas la vie. C'était encore quelque chose au fond de complexant. Il fallait soit être complètement dévergondé, soit rencontrer l'homme de sa vie, le prince charmant, soit construire. Finalement, il y avait des typologies, des archétypes féminins qui nous enfermaient à nouveau. Et là, c'est la cour de récré. Et même, il y a même plus de mur. On a tout ouvert. Et tout est possible. Et surtout, tous les renversements, tous les carcans qui avaient été installés aussi par le féminisme dans un deuxième temps. C'est là où c'est très intéressant. C'est que quand on prend une série comme Girls de Lena Dunham, qui a eu vraiment le soin, et moi j'ai beaucoup aimé quand Girls est arrivée, pour moi ça a été un moment très intéressant parce que c'était déjà un personnage extrêmement littéraire, mais tout tourne autour du nombril de Lena Dunham et de sa façon aussi de dire à quel point elle est féministe, à quel point c'est bien aussi de montrer le corps d'une femme gras, adipeux, de montrer comment le sexe peut être désagréable, de montrer comment on est, voilà, les failles qu'on a, pourquoi est-ce qu'on adore Philippe Ross alors qu'on est féministe par exemple. Enfin, bon. Moi, je crois que elle était allée trop loin d'une certaine manière dans la répétition de Namien. Et enfin, là, pour moi, tout est mis par terre et tout recommence. Et surtout sur une base très saine, qui est que les individus ne sont pas sains et que les gens normaux sont bizarres.
Joseph Ghost pour enchaîner sur Fleabag.
Oui, effectivement, cette dernière remarque de Mathilde est extrêmement juste. Les gens normaux ne le sont pas. Moi, ce que j'aime, tout à l'heure j'ai dit que j'aimais beaucoup, ce que j'aime beaucoup, ce sont les choses que la série travaille, et je crois que ce que le personnage même travaille. Je crois que ce qui est intéressant, mais ça l'était déjà dans la première saison, c'est que ce personnage-là est un personnage qui est traversé par plusieurs situations, et ce sont des situations dans lesquelles on peut se projeter, des situations qui sont finalement assez banales, assez normales, les situations de couple, de rencontres, d'aventures, de relations sexuelles, etc. Et sa façon de s'en sortir est toujours assez comique, drôle, intelligente, etc. Et c'est ce catalogue de situations qui fait que on arrive à se projeter là-dedans et on se dit oui, ça m'est arrivé à quelqu'un que je connais, et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la fiction et la série traitent ça. Et effectivement, dans la sérialité de la chose, la répétition dans cette série-là et dans l'écriture, donc elle est extrêmement importante, et c'est ça qui joue dans l'affection qu'on a pour la série. D'ailleurs, c'est à ce point, je trouve, de normalité absurde que parfois je me suis aussi surpris à laisser la série tourner, à m'éloigner de l'écran et à simplement écouter ce qui se passait, comme si j'assistais à des scènes de la vie normale. Et ça dans ce sens-là, c'était je trouve ça très 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 touchant. Ensuite, je trouve que c'est une série qui travaille quelque chose d'assez fort, qui est l'impossibilité, en fait. Et l'impossibilité d'être en couple, notamment, ou l'impossibilité de certaines situations. Et notamment le moment où les situations passent à la violence. Et souvent, le plus intéressant, le plus fort dans la mise en scène et dans la construction du personnage, ce sont ces moments où il y a de la violence, une violence parfois physique, une violence parfois verbale, la violence notamment parfois aussi avec sa belle-mère, une espèce de violence non dite, la violence avec son père, et aussi la violence avec surtout avec sa sœur et le mari de sa sœur. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passe, qui m'affecte beaucoup, et où je me dis tiens, j'ai envie de voir jusqu'où elle peut aller. Et c'est ça qui touche le point le plus sensible, c'est-à-dire jusqu'où elle peut aller, et à chaque fois elle trouve dans son jeu, dans ses gestes et dans l'écriture, des façons de s'en sortir qui sont, je trouve, assez admirables.
Iris Bray sur Fleabag à présent.
Cette phrase, ça m'affecte beaucoup. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, une espèce de double sens d'affect et d'être affecté. C'est-à-dire que Phoebe Waller-Bridge, elle nous met des énormes flèches dans le cœur. Elle attend qu'on soit attendri, qu'on rit. Et puis là, elle décoche sa flèche. Et là, on est juste terrassé, on est affecté par ce qui se passe. C'est une grande force de comédie et de dramaturgie. J'aimerais aussi reprendre cette idée de Sex and the City et de Girls, parce que je pense qu'elle s'inscrit en fait dans la même lignée. On est quand même 20 ans après Sex and the City. Il y a autre chose qui se passe. Et ce qui m'intéresse avec Phoebe Waller-Bridge, c'est qu'elle prend le corps féminin, mais aussi la corporéité de son personnage qu'elle incarne, pour dire quelque chose d'extrêmement féministe. Et là, en fait, je dirais même qu'il y a même un discours féministe qui s'articule plus, notamment dans l'épisode 2 avec Christine Scott-Thomas, où il y a tout un discours sur le corps féminin, la ménopause, mais aussi tout un discours sur les règles. Il y a tout un
discours. La ménopause, c'est la libération.
Voilà, mais c'est des choses qu'on n'entend jamais, en fait, de parler d'utérus vide ou plein, d'utérus qui se vide. Et elle le fait de manière drôle, mais aussi avec beaucoup de sens et une puissance dans le texte, parce que j'aimerais revenir justement à la manière dont c'est écrit. Moi, parfois, je me détourne aussi pour écouter, comme vous l'avez dit, mais presque parce que c'est d'abord, à la base, c'était un texte théâtral pour la saison 1, donc c'est un texte qui est acéré, vif, et tout est dans le rythme. Et il y a quand même un travail du rythme dans cette comédie qui est absolument incroyable.
Rythme de l'écriture, du jeu, de la réalisation, parce que tout ça est au diapason d'une très haute qualité. Je m'aperçois qu'on n'a pas encore dit à nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas Fleabag, quand même, l'un des grands principes de la série, c'est que son héroïne, donc il n'a pas d'autre nom que son surnom, Fleabag, s'adresse à son public, c'est-à-dire fait des regards caméra pendant qu'une scène est en train de se dérouler. Il y a un dialogue, mais elle se tourne, un regard, un mot, mais avec une virtuosité absolument folle.
Je vous interromps, mais le dispositif est un peu moins présent dans la deuxième saison. Il est beaucoup plus intéressant.
Il est extrêmement intéressant.
Oui, parce que à un moment, il y a des moments, on a l'impression que le dispositif est dans le réel de la série.
Oui.
Et notamment lorsqu'elle parle avec le prêtre qui est son amoureux, sans rien gâcher. À un moment, il lui dit arrête ce jeu qui est le jeu de s'adresser à la caméra. Et là, on ne sait plus en fait. Et même d'ailleurs, il y a une scène vers la fin où elle se tourne vers le public, elle le salue au loin, en disant salut, au revoir. Et là, on ne sait plus, en fait. On ne sait plus où on est, on ne sait plus même là où elle se situe.
Non, mais c'est vrai que ce procédé qu'on a pu voir plus ou moins bien fait, House of Cards, notamment, on se souvient de ça. Mais chez elle, il y a quand même quelque chose qu'elle instaure avec le public qui est extrêmement particulier, parce qu'on a un accès à l'intériorité, à l'intimité. Et moi, vraiment, plus je regarde cette série, scandaleusement trop courte, parce qu'on n'a pas dit non plus les épisodes de 27-28 minutes, 6 par saison, donc ça va vraiment très vite. Je pense vraiment à cette phrase d'Henri Calais, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Et c'est quand même ça aussi, Fleabag, et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, affectant, comme le disait Joseph. Mathilde Serrel.
Et il me semble aussi que dans l'écriture, on a dit que c'était extrêmement bien fait. Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire, que ce qu'on attend d'une série, c'est quand même
très grand art.
Le travail des personnages, personne, que ce soit dans tous les archétypes, que ce soit en effet une belle-mère, une sœur, et les relations entre femmes aussi, qui sont très archétypales souvent dans les séries. Là, je veux dire, tout ça sur le travail des personnages, c'est exceptionnel. Le travail des dialogues est exceptionnel. Et en effet, la dramaturgie, les retours en arrière et le jeu avec la caméra, la façon dont ça découpe le texte, ça le cisèle, c'est très intéressant. Il me semble, moi, qu'elle est inspirée, entre autres, par exemple, je pensais à la bande dessinée, à Émile Faris, par exemple, vraiment, qui était le livre qui a eu le prix à Angoulême, et c'était cette femme de 53 ans qui dessinait, moi j'aime les monstres, qui dessinait ses voisins, justement, ces gens normaux, qui sont si bizarres. Et je pense qu'il y a cette inspiration, à mon avis, dans l'écriture aussi, au-delà du théâtre, de ce travail de la bande dessinée un peu indépendante à la Émile Faris. Et par ailleurs, pour le regard caméra, pour moi, elle vient très fortement d'une série comme The Office, qui a eu que 2 saisons en Angleterre, où Ricky Gervais est aussi quelqu'un qui travaille très très bien l'acidité et très très bien l'affect. Et il me semble qu'il y a de ça aussi dans son écriture.
Iris Bray.
Je pense que ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que dans The Office, c'est vrai que là, le regard caméra peut participer à un processus comique, c'est-à-dire pour nous faire rire. Mais là où en fait Phoebe Waller-Bridge, elle est révolutionnaire, c'est qu'elle nous dit que nous, spectateurs, nous ne sommes pas là pour nous identifier à elle, mais pour participer à son histoire. Et donc, il se crée un lien sériel qui est absolument fabuleux. Et c'est à l'épisode 3 que là, au moment où le prêtre comprend qui elle est, qu'il entend les voix qu'elle nous adresse à nous. Mmh. Et tout d'un coup, on entre dans une autre relation, dans une triangulation presque entre eux. Il faut quand même dire que la série, en fait, se termine par ce regard caméra qui est presque le regard d'Orphée à Eurydice. Mmh. C'est-à-dire que Orphée se retourne, elle se retourne vers nous et elle nous dit adieu. Mmh. Adieu à cet amour impossible qui est aussi l'amour que nous avons pour elle. Mmh. Et ça, c'est bouleversant de poésie. Ça va tellement loin. Mmh. Et il n'y aura que deux saisons. C'est un adieu que moi, je n'ai jamais vu puisqu'on parlera après de Game of Thrones et de leur adieu. Je veux dire, là, c'est incomparable. Mmh. La poésie de ce moment, la force. Et effectivement, c'est maintenant nous qui sommes remplis de larmes et prêts à être secoués.
Bon, elle a dit quand même, Phoebe Waller-Bridge, que peut-être qu'elle y reviendrait, mais pas avant 50 ans.
Ouais.
Bon, là, c'est une bonne quinzaine d'années, elle a quoi, 33, 34
Elle est née en 1985.
C'est énervant. Hein. Joseph Gosne.
Il y a aussi une chose qui m'a marqué, c'est que la série, effectivement, on l'a dit, tourne beaucoup et parle beaucoup de sexe, de sexualité, de rapports sexuels, etc. Et la question de l'amour y est très, très intéressante, c'est-à-dire que l'amour n'existe pas, en fait. Ce n'est pas du tout ce qu'elle cherche. Il y a aucun moment, et un des moments les plus beaux et les plus forts se situe à la fin, lorsqu'elle dit à ce prêtre, je suis amoureuse de toi, et lui il lui dit ça va te passer, et tout est là, et tout, c'est-à-dire que la série elle dit vraiment ça, elle dit l'amour n'existe pas, il n'y a que ce que l'on fait, il n'y a que des preuves d'amour.
Et puis il faut dire aussi que on parle de pas mal de sexualité dans cette série, mais en évitant l'écueil de représenter les scènes sexuelles, et ça c'est quand même aussi un tour de force, parce que on a quand même tellement souvent des choses ratées, pathétiques qui débranchent le spectateur. Là il y a une façon, il y a des scènes de lit. Mais je vous laisse découvrir comment. Mathilde Serrel, pour finir.
Et juste pour valoriser encore cette exceptionnelle série, ajouter qu'il me semble que, sur le plan du scénario, elle a des idées absolument incroyables. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on l'écoute, cette série, au-delà de la façon dont les dialogues sont écrits? C'est parce que c'est quand même... elle va imaginer une situation, pour pas divulgâcher, si on prend dans la saison 1, ce moment où, en fait, elle doit choisir, avec le mari de sa sœur, un cadeau. Pour sa sœur, elle regarde les chaussures, elle dit alors moi je suis ça, donc ça, moi j'ai été cette personne, cette paire de chaussures, ça c'est quelqu'un qu'on aimerait tous être, offre lui ça, et attends celle-là ça c'est moi, en fait c'est ce que je suis au fond, et cette idée toute bête de regarder des chaussures et de commencer à avoir ce dialogue avec des personnalités qu'on peut y projeter, c'est une idée toute bête de scénario, c'est une idée toute bête, mais dans une scène comme ça de magasin, tout d'un coup, c'est génial.
Alors, évidemment, avec pareil scénario, pareille écriture, on comprend que certaines personnes aient eu l'idée de se dire on va importer cette série en France,
et oui,
on va la traduire, mot par mot,
on comprend et on comprend pas.
Scène par scène, on va écouter la bande-annonce de Mouche avant d'en parler.
Je suis pas obsédée par le sexe, c'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
La seule chose plus difficile encore que de dire à sa sœur, pleine de réussite, pleine de pouvoir, d'argent, d'anorexie et de perfection, qu'on est fauché, c'est de lui demander de vous prêter de l'argent.
Qu'est-ce qui se passe? T'es blessée?
Je vais lui demander.
T'as besoin d'argent?
Non. Non. Partner.
Partner.
Donc j'ai ouvert ce bar à thé avec ma meilleure amie, Nini.
Ah non, pas du tout. Ça te va pas du tout, je déteste. Quoi?
Mais c'est mes habits, ça, Nini, je les porte depuis ce matin.
Je t'aime.
Des glaces au thé, des scones au thé, des cakes au thé. C'était ça la bonne idée. Un bar à thé avec que du thé.
C'est drôle, ce thé partout alors que toi tu bois juste du vin.
T'es pas comme les autres filles, toi.
Je suis en train de faire pipi sur le canapé.
Mais ça va pas.
Ah, c'est génial, pénible cet échange long.
C'était magique.
Oui.
Mouche sur Canal+. Alors, on va pas s'étendre des heures, d'abord parce qu'on est très en retard. Ensuite, parce que je pense que ça va être assez... on pourra synthétiser nos propos. Casting, distribution, absolument formidable là, pour Mouche. Donc Camille Cotin qui reprend le rôle titre, Suliane Brahim, Didier Flamand, Anne Dorval, Pierre Deladonchamp, India Air. Enfin, c'est vraiment... casting absolument impeccable. Ça, c'était pour la parole positive. Iris Bray, on enchaîne.
pour la parole négative.
Je sais pas.
Il y a un vrai, vrai... En fait, ce n'est pas une adaptation, c'est une reproduction. Et là est tout le problème. Et il y a aussi un vrai problème de traduction, pour moi, à l'oreille. C'est-à-dire que toutes les phrases sont beaucoup trop longues et on n'a jamais le rythme de Fleabag. Je me suis amusée à retranscrire le dernier dialogue de la... Et alors, de juste pour voir ce que ça donnait sur une feuille. Et effectivement, bah, c'est beaucoup trop long en français. Donc, par exemple, la dernière phrase qu'elle dit, c'est en français, c'est « soit je suis absolument totalement seule et bon, ça c'est pas drôle du tout », et en anglais ça donne or I'm completely fucking alone which isn't fucking funny, et en fait tous les fucking, pardon, mais bon, les
allitérations,
voilà, tout ça en fait c'est perdu dans la langue française, tout le rythme est perdu et donc l'effet de comique est perdu. Et il y a aussi un décor très différent, c'est-à-dire que Phoebe Waller-Bridge, la manière dont elle bouge et dont elle est à l'écran, et même la manière dont son visage bouge, c'est Charlie Chaplin. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement comique. Camille Cotin, il y a quelque chose de beaucoup plus réservé, de plus froid, de beaucoup plus dramatique et de triste. Et du coup, on part vers la tristesse. Et même les scènes de sexe de la saison 1 qui sont là pour parler en fait de deuil, mais qui sont rattrapées par le rire de Phoebe Waller-Bridge, là, quand c'est Camille Cotin, c'est pas rattrapé par le rire, et donc tout devient un peu plombé.
Joseph Gosselin.
Moi, j'aime bien justement cette différence-là, c'est-à-dire que la différence ne se situe que dans l'actrice, pour moi, que dans le corps de l'actrice, sa façon d'être à l'écran et son visage, effectivement, sa façon de parler. J'aime bien ce que Camille Cotin en fait, même si, au fond, il n'y a pas tant de différence que ça, et que l'original lui est supérieur, parce qu'on a beaucoup rigolé avec l'original. Maintenant, j'aime bien la façon dont l'ironie est un tout petit peu changée, etc. Mais au-delà de ça, voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait quasiment prendre ce décalque comme une sorte de geste ultime, si ça avait été dans une exposition d'art contemporain, par exemple. Ouais. Mais là, parce que je me souviens
qu'à l'époque,
voilà, c'est ça. Je me souviens de cette époque-là où on disait ça de Gus Van Sant,
mais plan par plan le voilà. Film Hitchcock, mais en couleur.
Mais c'était aussi quasiment un moment où Gus Van Sant était au sommet de ce qu'il était.
Oui, mais là c'était un sommet de fétichisme, ça s'adapte bien à Psychose.
Exactement.
Sur Fleabag.
Alors que là on ne sait pas.
Ouais, on ne sait pas. On se dit, donc Fleabag passe en France, est diffusé sur Amazon Prime Video, qui n'a pas une audience folle. Canal Plus se dit, c'est génial, on va le faire en français, et la plupart des gens, 99% des gens ne le connaîtront pas. Donc on est peut-être les plus mauvais spectateurs de Mouche, Mathilde Serrel, pour conclure là-dessus.
En effet, je pense que quand on a vu l'original, on est les plus mauvais spectateurs de Mouche. Sur l'idée de la reproduction, en effet, un geste artistique qui est ancré dans la tradition, hein, de la croix, il s'entraînait sur les caprices de Goya pour trouver ses formes, pour trouver ses mouvements. Donc bien sûr, dans la reproduction, il peut y avoir un geste de création, mais là, en revanche, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une démarche, je dirais, commerciale, proche du Canada Dry, quoi. Ça y ressemble, mais c'est pas ça.
Vous êtes dur.
Julianne
Brahim, elle est formidable,
je trouve, par exemple,
une très bonne sœur.
Moi, c'est Anne Dorval qui m'intéresse, par exemple.
Moi, je trouve beaucoup moins bonne.
Dans ce qu'elle amène, moi, pourquoi elle me fait rire? Parce que, en fait, je vais vous dire, moi, le seul truc que je trouve intéressant, c'est d'amener un petit peu de l'atmosphère française, de ce qu'on a, nous, un peu comme ça, dans la société française, qui va se traduire. Par exemple, bon, alors, elle se tripote sur Barack Obama dans la version anglaise, ou en France, c'est sur Benoît Hamon. C'est quand même peu crédible. Bon, puis les.
Mais c'est plus drôle.
Mais tout d'un coup, c'est
presque plus drôle.
Exactement. Et tout d'un coup, c'est plus drôle.
Mais c'est plus drôle si on a vu Fleabag, pour le coup.
Absolument.
Voilà. Et le type qui l'a. Voilà.
Là,
tout d'un coup, il y a un effet de blague.
Elle est quand même au lit avec son chéri.
Voilà.
Qui lui fait vaguement dormir.
Elle a sorti l'ordinateur portable.
Elle se caresse avec son.
Elle se caresse en regardant Benoît Hamon. Il lui dit de quoi il parlait. Et elle ment complètement. Et sur ce, il la quitte. Bon. Alors, le fait que ce soit Benoît Hamon.
Barack Obama.
Voilà, le petit plus de l'adaptation française. Par ailleurs, on aime bien que l'idée qu'un mec de Nuit debout, un peu lourdingue, vienne la draguer dans un bar. Enfin, moi, j'aime bien quand je ressens la société dans laquelle on vit.
C'est l'adaptation que vous aimez.
Et là, tout d'un coup, il y a un
effet.
Il y en a très peu. Et moi, quand il y a ça, justement, il y a une valeur ajoutée. Sinon, je reste sur Canada Dry ou le glacis téléfilm, je dirais, trop bourgeois. C'est beaucoup trop propre.
Bon, si à Mouche saison 2, il faut qu'ils se lâchent davantage et qu'ils adaptent davantage. Ils ont la matière.
Voilà.
Ils peuvent le faire. Bon, on vous sur-recommande Fleabag, à trouver par tous les moyens que vous pouvez. Cette série de Phoebe Waller-Bridge, un génie. Et puis donc Mouche, la saison 1 est sur Canal+, et sur MyCanal, c'est signé Jeanne Herry. À suivre dans cette dispute, on va aller vite. Jeune influence, ABC contre Poirot, et parce qu'il nous faut du temps pour le petit salon.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute série. Tiens, je vais faire une petite annonce, comme on est en retard, hein, c'est le moment, je pense. La semaine prochaine, vendredi, on sera le 21 juin, vous le savez, fête de la musique. Donc on a changé notre programme et on va faire la fête de la musique au Bel Air. On aura des invités. On aura Léonie Pernet, on aura Raphaël Lanader, elle, et on aura Christophe.
Excellent, Léonie Pernet.
Donc voilà, un conseil à vous donner, venez vendredi prochain au Bel Air pour voir ce beau monde. Il y aura des sessions en live, etc. Donc on va parler de musique et d'amour de la musique avec ces gens-là. Fin de la petite annonce. Suite de cette dispute. Jeu d'influence, c'est une série de Jean-Xavier de Lestrade, en cours de diffusion sur Arte. Ça a commencé hier soir. 971 000 téléspectateurs pour l'épisode 1, 921 000 pour le 2. Pas beaucoup de décrochage, c'est quand même plutôt bon signe. Faut-il voir la suite? On va en parler. Concernant Jean-Xavier de Lestrade, on a parlé ici, dans cette dispute, de la géniale série documentaire Soupçon de Staircase. On a aussi parlé des mini-séries qu'il a signées déjà pour Arte, trois fois Manon et Manon 20 ans. Jean-Xavier de Lestrade, il est fils d'agriculteur et c'était donc assez logique qu'il s'intéressa au procès contre Monsanto et ses pesticides. Et il a relié cette question à une autre qui le passionne, la chose politique. On va découvrir dans cette série un agriculteur victime d'une leucémie, un député qui veut porter une loi contre l'utilisation des pesticides, un cadre du multinational agroalimentaire retrouvé mort, une ancienne journaliste qui se met au service d'un cabinet de lobbying. Trois petits points. Premières impressions sur Jeu d'influence, Iris Bray.
Ne pas regarder le troisième.
Mmh. Joseph Ghost.
Beaucoup de problèmes, mais j'aime bien quand même.
Mathilde Serrel.
Plus caricatural, c'est difficile.
Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça?
Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier. Claire Hansen, qui a vendu son âme au diable.
Ouais, mais elle a vendu cher. Très cher. J'ai peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre.
Pourquoi tu fais tout ça?
T'es de quel côté?
Iris Bray, pas de troisième épisode la semaine prochaine?
Non, déjà, j'ai eu du mal à terminer le premier. Enfin, moi, c'est le jour. Enfin, j'avais énormément aimé The Staircase et trois fois Manon. Enfin, même Manon 20 ans, on avait beaucoup parlé, puisqu'il y avait quelque chose d'extrêmement chaleureux, même dans Manon 20 ans et trois fois Manon, quand il s'était approché de la fiction, avec un personnage, une héroïne vraiment incarnée. Pour moi, là, tout est désincarné. On essaye de faire passer beaucoup d'idées, mais pour moi, il n'y a absolument rien qui se passe, puisque ces personnages-là ne m'intéressent pas. Pour moi, ils deviennent presque interchangeables. C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais même, mais qui est ce mec de 50 ans blanc, un peu bedonnant? Enfin, c'est lequel?
Un lobbyiste, un député, voilà, un agriculteur.
Et finalement, est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va pas changer de camp? Enfin, en fait, tous les enjeux ne m'intéressaient pas, puisqu'on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer. Donc, j'ai vraiment regardé pour vous, Arnaud, et pour pouvoir dire quelque chose, mais j'ai vraiment du mal, parce que je trouve que. En fait, ces séries à thèse ne racontent rien s'ils ne savent pas travailler leurs personnages. Or là, quand c'est pas incarné, eh ben, on passe à côté. On passe à côté en plus d'un grand sujet qui aurait pu avoir une dramaturgie. Parce qu'on a vu comment il travaillait la dramaturgie, même dans The Staircase, même dans ses documentaires. C'est quelqu'un qui sait nous tenir en haleine.
Ah oui.
Donc là, il y a quand même tous les ingrédients. Mais alors de rajouter des histoires d'amour, de rajouter des... Enfin non, mais vraiment, moi, ça me passe vraiment totalement... Enfin, je suis passée totalement à côté.
Bon, vous m'en voulez pas trop, quand même. Vous êtes contente de venir à la dispute, Iris.
Je suis très heureuse d'être là ce soir, Arnaud. Mais bon. Quand il y a Big Little Lies à côté, quand il y a Pose à côté...
On a fait la saison 1, déjà.
Bah oui, mais bon, non, mais là, il y a quand même... Je trouve qu'il y a tellement des choses extrêmement importantes qui se passent outre-Atlantique au niveau de la forme. Quand je vois cette série Arte, qui me fait un peu penser aussi à Eden, je me dis, qu'est-ce qui se passe en France, quoi? Pourquoi est-ce qu'on est tellement coincé? Et pourquoi est-ce qu'on donne toujours la parole même aux mêmes personnes? Et on voit toujours les mêmes visages, j'en peux plus.
Bon, une parole positive, celle de Joseph Ghost, d'après ce qu'il a dit tout à l'heure.
Moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus pris par cette série, que j'ai bien aimé regarder, parce que j'aime bien les choses qui sont lentes et dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, j'y ai vu une sorte de baron noir vraiment lent et un peu raté. Oui, c'est bon, mais j'aime bien ces choses-là. J'aime bien ces choses ratées.
Je suis assez d'accord avec Joseph.
Et qui sont un peu, comment dire,
lents et ratés.
Qui sont un peu dans la décadence de ce qui à un moment a pris. Du coup, ça m'a intéressé, et notamment la lenteur et la longueur des épisodes était assez intéressante. Chaque épisode fait au moins 10 minutes de trop par rapport à une série, à un épisode normal.
Oui, c'est 58 minutes.
On est à 64 minutes.
On
est à 64 minutes.
C'est fou. Ouais.
C'est vraiment très long. Et on est vraiment dans ce temps où il ne se passe pas grand-chose, avec en plus, pour le coup, des vrais problèmes de vraisemblance par rapport à certains personnages, notamment ce personnage de journaliste qui devient lobbyiste. Je trouve ça totalement.
Moi, je croyais qu'elle était. Je trouve ça assez undercover, pour employer un mot.
Mais non, justement, à un moment, on se demande est-ce qu'elle va l'être, est-ce qu'elle va l'être. Ouais. Mais il n'y a aucun dévoilement.
C'est une infiltrée, qu'elle était en mission.
Non, je crois que c'est juste une ignorance des choses qui se passent dans ces milieux-là. Et aussi une ignorance de ce qui se passe vraiment dans la politique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a assez surpris, mais qui du coup m'a aussi intéressé, c'est que Arte produit une série qui est censée parler de politique, mais qui ne parle jamais de politique. Il n'y a aucune idéologie en jeu, il n'y a aucune appartenance à un parti politique qui est mise en valeur. Et du coup, je trouve que ça renvoie à l'état de la télévision elle-même, et à l'état des séries un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne projette plus rien de ce qu'est la politique, de ce qu'est l'idéologie, de ce qu'est l'appartenance à un parti, ou en tout cas de ce que ça devrait être. On est dans un flou. Effectivement extrêmement caricatural et qui du coup peut être assez néfaste et qu'on a envie de repousser, mais c'est très intéressant de mon point de vue de se dire qu'est-ce qu'une série aujourd'hui diffusée sur Arte, qui est quand même une chaîne qui n'est pas neutre et qui n'est ni TF1 ni M6, a à raconter sur le politique. Or elle a pas grand chose à en raconter. Elle essaye de montrer un système, elle essaye de montrer des mécanismes sans vraiment les montrer complètement, et ça dans le fond, donc un peu par contradiction, ça m'a intéressé, et j'ai bien aimé suivre cette façon de faire et cette façon de montrer.
Mathilde Serrel, sur Jeu d'influence.
Moi, j'ai trouvé que dans les mécanismes de la politique, le rapport aux médias et les rapports humains, c'était difficile de faire plus de clichés, plus de fausseté d'ailleurs. Hein. C'est pas comme ça que je crois.
Vous auriez préféré que ce soit la matinale de France Culture plutôt que de celle de France Info, c'est tout?
Non, je crois qu'en fait, c'est une série qu'on a l'impression d'avoir vu créée par un générateur. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de voir un générateur de série. Les personnages sont tellement archétypaux, les dialogues, excusez-moi, mais qu'est-ce que... Oui, tu sais, nous, les femmes, on sait faire deux choses en même temps. Enfin, comment est-ce qu'on peut encore écrire cette ligne-là dans une série? Comment c'est possible? Toi, je t'engage comme lobbyiste parce que, tu sais, t'es capable de jeter un verre à la face du ministre. Et ça m'a impressionnée. Enfin, ça va pas. Mais c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui prend un générateur, une intelligence artificielle, qui met lobby, écologie, série, suicide,
Arte,
qui rajoute Baron Noir et House of Cards, pour essayer de
faire
un peu la sauce.
On a le factotum d'House of Cards.
Et voilà.
Qui est,
et je vous sers le produit qui ne ressemble à rien, qui est sans saveur et à mon avis sans intérêt. Et je suis d'accord, c'est presque grave. Et pourtant, c'est pas grave non plus la musique, c'est pas grave les séries, c'est pas grave le cinéma, on va pas se taper comme à l'époque à Libération, les journalistes ciné le faisaient. Mais je crois quand même que c'est un sujet qui était très intéressant. C'est hyper utile d'avoir une fiction qui permet de retracer cette bataille, ce procès, ce travail des lobbies et d'impliquer les spectateurs justement sur un chemin politique. Et de pas le prendre et de le rater, je trouve ça particulièrement dommage. Et j'ajoute en plus que cette France ne ressemble pas, il me semble, à la France du 21e siècle. Moi, j'ai l'impression d'être dans OSS 117, quand tout le monde se dit bonjour, dont Rio ne répond plus. Comment ça va, Flantier? Et toi, Rompierre, t'as dîné avec Gragnon? Voilà, tout le monde s'appelle comme ça. Il y a une onomastique franco-française de base et tout est figé, si vous voulez, dans un siècle qui me semble pas le nôtre, une époque qui est pas la nôtre et donc une série qui, à mon avis, n'avait pas besoin d'être.
Oui, alors, au niveau de du copier ou de la reproduction, c'est vrai qu'il y a le personnage de Doug, de House of Cards,
voilà,
qui est exactement dupliqué comme homme de main du grand lobbyiste.
La lobbyiste est elle-même le double du lobbyiste qui couche un petit peu partout aussi dans House of Cards.
Absolument. Et pourtant, là encore, au niveau de la distribution, que ce soit Alix Poisson qui joue cette journaliste, ancienne journaliste, devenue lobbyiste, Jean-François Sivadier, qui est un acteur absolument génial,
au-delà d'être qui est traité en méchant, basique.
Ouais. Mais il est une grande finesse. Marie-Lou Ossilou qui joue la jeune fille du père, enfin
de la personne
retrouvée morte. Voilà. On sent qu'il y a la qualité d'interprétation qu'il y a, mais en effet.
Et Laurence Stoker qui est quand même
pas n'importe qui.
Enfin,
mais c'est vrai que la distribution, on se dit que là, il faut que Phoebe Waller-Bridge vienne écrire peut-être. Toutes les séries, tous les dialogues, tous les scénarios.
C'est pas Killing Eve. C'est raté.
On va pas faire plus long parce qu'on a encore un riche programme. On va s'arrêter là sur Jeux d'influence de Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblaise à suivre sur Arte.
Are we going to have a murder?
Please say it's going to be spectacularly grisly.
We must prepare for a storm of slaughter.
J'attendais juste que le rouge soit ouvert pour parler, car mon micro ne l'était pas ouvert. C'est l'heure du coup de cœur de Joseph Gauss, qui nous a fait un coup à la Joseph Gauss ce matin. Bon, finalement, je change mon coup de cœur, mais je pourrais parler quand même du sujet que j'avais prévu, et quand même dire un mot. Bon, il faut choisir,
J'ai essayé.
C'est ABC contre Poirot ou c'est Tchernobyl, mais il y a un moment donné, ou alors vous écoutez la chronique de Mathilde sur Tchernobyl, et ça ira très bien, déjà. Vous l'avez fait il y a, quoi, 3 jours?
Non, c'était, hier.
Hier, bon, vous voyez comme le temps passe. Joseph, ABC contre Poirot, qu'est-ce que cette histoire?
ABC contre Poirot, c'est une vieille passion, une vraie lubie. J'adore tout ce qui relève des adaptations d'Agatha Christie. Je suis un grand fan de l'Hercule Poirot avec David Suchet des années 90 et 2000.
Ah, carrément?
Ah oui, j'adore ça. J'adorais
Pierre Bayard, j'espère.
Non, j'adorais aussi le Sherlock Holmes avec Jeremy Brett dans les années 80-90. Je suis fou d'arabesque, voilà, ce genre de choses, vous voyez. Et là, j'ai vu, comme ça, complètement par hasard, qu'il y avait un ABC contre Poirot. ABC contre Poirot est un des classiques d'Agatha Christie, qui a déjà été adapté plusieurs fois. Donc je me suis mis à le regarder, mais tiens, je vais voir ça. Évidemment, j'étais assez seul dans ce moment. Heureusement qu'il n'est pas très long, il n'y a que 4 épisodes. C'est davantage d'un feuilleton qu'une longue série. C'est avec John Malkovich, qui joue un Poirot vieillissant, vraiment vieillissant. Et ce qui m'a touché, c'est que là, d'un coup, on essaye de montrer un Poirot qui, non seulement est vieillissant, mais en plus a vraiment passé son heure de gloire. Et qui tout à coup se retrouve confronté à la vieillesse, le fait que les gens ne veulent plus de lui et qu'il est totalement à côté de la plaque, notamment dans un moment en Angleterre où l'Angleterre rejette ses étrangers. Et lui est belge, et donc on n'aime pas les Belges en Angleterre en 1933. Donc ça m'a touché de voir John Malkovich jouer ça. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que c'est une série qui essaie de parler de ce que deviennent ces vieux héros de la télévision, de la vieille télévision, comment on les traite, comment en fait ils sont négligés et qu'ils ne sont plus grand chose, et que cette espèce de virilité qui a été beaucoup affirmée dans ces séries là cette masculinité, parce que c'est aussi beaucoup ça, finalement elle est vraiment passée, que Malkovich joue quelqu'un qui est vraiment sur le déclin et dont on découvre des choses qu'on ne savait pas et qui le rendent beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile, et qu'à côté de ça, les personnages féminins sont forts, intéressants, compliqués, complexes, et ça m'a rendu la série assez proche, et du coup c'est vraiment ce qui m'a intéressé, et j'y ai vu des parallèles avec d'autres séries, j'aurais pu parler de Tchernobyl, mais bon, c'est pas le sujet, qui justement tente de voir ce qu'a été l'histoire, ce qu'on a raconté sur les choses il y a 20 ou 30 ans et ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est pour moi, c'est de l'historiographie. Pour moi, en tant que fan de Poirot, c'est de l'historiographie, c'est une nouvelle façon d'écrire ces personnages-là à la télévision.
Et c'est Sarah Phelps qui est la showrunneuse de ce ABC contre Poirot qu'on peut découvrir en France sur MyCanal.
Tout à fait. C'est là où je le confirme.
Bon,
c'est là où je l'ai regardé.
Ben, vous me donnez envie. mon cher Joseph. Et je vous amènerai des livres de Pierre Bayard.
Merci.
C'est le petit salon.
Mais oui.
Mais Lucille Gaumont n'est pas là, elle a un mot d'excuse hein, aujourd'hui. Et quand elle n'est pas là, on sait que Lucille Gaumont confie tout, son cœur, sa vie, à Boris Pinault, qui tient ce petit salon aujourd'hui. Boris, il est temps d'en finir.
Et oui, la série culte de ces dernières années tirait le mois dernier sa révérence. J'ai nommé Game of Thrones. Après 2 ans d'absence, la clôture du phénomène était, on peut le dire, plus qu'attendue. Enfin, l'hiver éternel, le fameux, celui du Winter is Coming, dont les oreilles nous ont été rabattues, devait venir. Enfin, on allait découvrir qui des potentiels souverains de Westeros occuperait pour de bon le trône de fer. Las de l'avis du public et de l'avis critique, au fur et à mesure que les 6 épisodes de l'ultime saison s'égrenaient, c'était le glas qui sonnait. L'hiver est bienvenu, mais n'a duré qu'une nuit, et encore. Aplanissement total des enjeux narratifs, disparition des récits secondaires qui ont fait le sel de la série, personnages abétis et vidés de leur substance comme si on daignait leurs itinéraires respectifs, les voilà sacrifiés sur l'autel d'une résolution hâtive et maladroite. Partout le même son de cloche, c'est du travail bâclé. Plus d'1 500 000 fans ont déjà signé une pétition pour la réécriture de la 8e saison. Une audace narrative, toutefois, dans l'épisode final. Le sacre du nouveau souverain se raconte à rebrousse-poil des quêtes triomphalistes menées jusqu'ici par les candidats au trône de fer. La nouvelle gouvernance ne sera pas grandiose. Elle sera bricolée avec 3 bouts de ficelle ou ne sera pas. Je dois avouer que ça a marché sur moi. Mais bon. Si la fin d'une série a vocation à unifier l'œuvre en conjuguant cohérence narrative et acmé émotionnel, la clôture de Game of Thrones semble bien l'avoir démantelée tout entière.
Mais je vous sens déçu, Boris.
Bah, un peu, oui, mais bon, je me console en repensant à quelques principes narratifs qui ont bien marqué les esprits. Alors voici ma petite liste, non exhaustive bien sûr. Les dernières minutes de Six Feet Under avaient valeur d'épilogue. Une collection de flash-forward nous permettait d'entrevoir le devenir des protagonistes avant de leur dire adieu. Dans Buffy contre les vampires, c'est un décor que l'on quitte. La ville de Sunnydale, le berceau des démons qui ont peuplé la série, s'affaisse et laisse derrière elle un énorme cratère. La mission de Buffy est terminée, l'action n'aura plus cours, la série peut s'arrêter. On peut fermer une fin en tuant le protagoniste, par exemple, Breaking Bad en tête, ou l'ouvrir. On se souvient des 6 amis de Friends qui nous laissaient les clés de l'appartement fétiche avant de refermer la porte pour de bon et de continuer leur vie sans nous. David Chase, dans Les Sopranos, a choisi, lui, pour le dire vite, de ne pas conclure. Gros plan sur Tony Soprano attablé au restaurant alors qu'une menace potentielle se profile à l'entrée de l'établissement. Tony relève la tête. Cut. Coupe brutale vers un écran noir qui dure de longues secondes et générique en silence. On quitte la fiction en plein cœur de l'action avec une question en tête que je vous pose à présent. Qu'attendez-vous de la conclusion d'une série ?
Ça, c'est une belle question. Il nous fallait du temps pour répondre. On en a un peu, quand même. Qui va se lancer ? Iris Bray, tiens, je vous sens désireuse de commencer.
Qu'est-ce qu'on attend de la fin d'une série ? De Game of Thrones, pas grand-chose. De toutes les grandes séries, je pense qu'on attend une manière de gérer nos deuils. Une manière de réfléchir à nos morts, à ceux et celles qui sont déjà partis. Je pense que c'est pour ça que la fin des Sopranos et cet écran noir était à la fois extrêmement déstabilisante, puisque David Chase nous disait « je ne vous dirai pas de quoi est fait l'avenir, ni la mort, ni la fin », mais nous renvoyait nous-mêmes à cet écran noir et à nous, qu'est-ce qu'on peut faire de la mort et du deuil. Donc je pense que c'est une expérience... toujours douloureuse, moi, que j'essaye d'éviter un maximum. Si j'avais pu d'ailleurs éviter la fin de Game of Thrones, je l'aurais fait, ça aurait été mieux. Mais quand on, voilà, là, on a parlé de Fleabag, les derniers regards de Fleabag, je sais qu'ils me hanteront. Donc je pense qu'une belle fin de série, c'est quelque chose qui nous accompagne et qui nous aide à aller vers la mort plus sereinement.
Alors, concernant Game of Thrones, Joseph Gosselin et moi, on fait partie du même club.
Oui, un club très fermé.
Bon,
très...
Pas tant que ça, peut-être.
Oh, je sais pas.
Il est temps que la outing se fasse. On n'a jamais vu une seconde de Game of Thrones, Joseph
seconde,
et
pas
moi.
Une seconde, pas une minute,
seconde, mais tellement pas envie, surtout.
Oui, absolument.
Tellement pas envie. Malgré tous les gens qu'on aime. Oui, et qu'on respecte et qui nous disent il faut voir Game of Thrones,
mais non,
pas une seconde. Donc on ne pourra pas parler de la conclusion de Game of Thrones
qui
nous est passée très 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 loin.
Très très loin, ouais, très loin. Mais je crois que effectivement une des plus belles fins c'est celle des Sopranos parce qu'effectivement elle reste ouverte même si David Chase quelques années plus tard a dévoilé ce qu'il avait en tête. Parce qu'il a dit que dans une interview un peu plus tard il a dit que Tony Soprano venait de mourir. Et que l'écran noir, c'est ça, c'est la mort. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a fantasmé sur cet écran noir. Et je crois que c'est ça qui compte, c'est-à-dire c'est la poursuite du fantasme et le fait de ne pas arriver à faire le deuil. Moi, je pense au contraire. Et l'ouverture vers autre chose. Parce que je crois que ce qui compte, ce sont deux choses. C'est que quand on commence une série, on sait qu'elle va se terminer. On sait à un moment que ça se termine.
C'est souhaitable.
C'était souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est au contraire, c'est le rapport au feuilleton. Et ça, c'est même avant les séries. C'est dans la bande dessinée, dans les strips, dans les journaux. Le feuilleton, c'est comment vous gérez le feuilleton, comment vous gérez l'addiction à l'action, et comment l'auteur et ce que vous lisez ou ce que vous regardez se manifeste à vous. Et un des ressorts, ça a toujours été de tuer des personnages. Milton Caniff le faisait dans les bandes dessinées dans les années 30. Les comics le font régulièrement. On tue un personnage et d'un coup l'action est relancée, et il n'y a pas de fin. Alors que là, par exemple, dans les Sopranos, le fait de ce qui est cet écran noir, ça veut dire voilà un ressort du feuilleton, voilà la mort qui s'installe, mais on arrête tout et là vous vous retrouvez sans rien, comme si on vous coupait un membre, parce que vous avez été totalement addict à ce que vous avez vu. Et ça, c'est exactement ça qu'on attend de la fin d'une série, c'est-à-dire ce sentiment quasiment de drogue, de familiarité, et d'un coup on vous le retire et vous devez vivre avec ça. Et c'est ça qui est passionnant.
Oui, parce que c'est un oxymore en fait, la fin d'une série, c'est-à-dire qu'une série n'est jamais là pour, c'est un feuilleton, mais c'est pas censé s'arrêter. Donc quand on est face à ça, il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant.
Ouais. Surtout, une des premières fins qui m'a marqué. J'étais gamin, c'est la fin de Goldorak, qui était la première série que j'ai suivie. Et la fin de Goldorak, elle est fantastique. C'est les deux personnages principaux, enfin le personnage principal qui repart dans son vaisseau pour retrouver sa planète et la repeupler. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il repart avec sa sœur pour repeupler une planète morte. Et là, effectivement, tout est possible. Donc, à partir de là, la fin des Sopranos, voilà, entre la fin de Goldorak et la fin des Sopranos, tout est possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui vous travaille après.
Ah bah, ça peut vous travailler longtemps. Mais...
Absolument.
Moi, il m'a semblé que ce qui évolue par rapport à la conclusion d'une série, c'est la façon dont on l'a regardée. Et au fond, on n'attend pas la même chose à la conclusion d'une série selon l'époque, le temps médiatique dans lequel on se trouve. Et je crois qu'au moment où Lost s'est arrêté, il y a cette très belle formule qui a été inventée qui s'appelle la nostalgie. Et c'était justement ce deuil dans lequel étaient précipités les spectateurs de Lost, qui avaient, un petit peu comme dans Game of Thrones, échafaudé aussi énormément de théories et travaillé vraiment, on va dire, ensemble, en réseau de fans, une sorte de vécu communautaire de la série. Donc, c'est la série qu'on regarde ensemble, et c'est un deuil individuel et c'est aussi un deuil collectif de ces échanges. Mais ça, pour moi, c'était donc dans une certaine temporalité que vient de clôturer Game of Thrones, qui est un peu la dernière série que nous regarderons ensemble. Et d'ailleurs, il y avait des soirées de fans, chacun prenait son hypothèse, etc. Puis il y a une exégèse incroyable sur Game of Thrones, je veux dire, le nombre de pages et de pages qui ont été écrites. Donc, mais ça clôture un cycle parce qu'on rentre davantage donc dans des séries qui vont être proposées de manière délinéarisée sur des plateformes, etc. Et je ne sais pas si ce cérémonial de la diffusion et du rendez-vous de la diffusion, surtout avec le binge, c'est-à-dire l'intégralité, va continuer. Et donc du coup, quel genre de fin on va attendre de cette nouvelle façon qu'on a de regarder les séries, peut-être justement quelque chose de purement artistique, une idée, mais on la vivra pas ensemble. Donc c'est pas les mêmes attentes, il faut y réfléchir.
Alors, concernant les fins, il y a quand même plusieurs aussi cas de figure, parce qu'on a Desperate Housewives. J'ai aucune idée, je me rappelle absolument pas comment ça se finit. Pourtant,
j'ai tout vu.
Bon, parce que. Il n'y a pas de fin qui puisse être marquante. Walking Dead, qui va attaquer sa saison 10.
Ah oui.
Il n'y a pas de fin possible, d'une certaine façon. Et c'est l'audimat qui amènera une fin qui sera de toute façon décevante parce que c'est un, voilà, c'est un monde qu'on traverse et il peut se passer énormément de choses et les générations succèdent.
Et la fin de Mad Men.
Alors justement, j'allais y venir. Ouais. Breaking Bad, bon, voilà une fin, une résolution, le héros meurt. Les autres personnages, on sait ce qui leur arrive. Mad Men, génial. C'est un peu l'idée du Soprano, mais autrement, c'est l'ambiguïté.
Ouais.
Chacun comprend ce qu'il veut à la fin. Si vous voulez voir une fin triste, vous voyez une fin triste. Si vous voyez une fin heureuse, de quelque façon que ce soit. Ambiguïté. The Americans, moi, c'est une fin quand même extraordinaire quand les deux infiltrés qui vivaient depuis 30 ans aux États-Unis retournent à Moscou et demandent que la voiture s'arrête en arrivant à Moscou pour regarder la ville la nuit. On est d'accord, Iris Bray. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Et puis, on est obligé de parler de Twin Peaks quand même, parce que c'est pas possible, parce que le dernier cri de Laura Palmer, qui n'est peut-être pas vraiment Laura Palmer, mais qui est quand même Laura Palmer, bon, bah, Lynch toujours au-dessus de tout, quoi.
Il y a aussi des séries qui échappent à leur fin. Homeland, par exemple. Homeland a échappé à sa fin programmée. C'est-à-dire que Homeland, à la base.
C'est pas fini, hein.
Oui, je sais, mais justement, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que Homeland a échappé à sa fin, qui était, puisque la série reposait sur un duo, et qu'un des personnages meurt au bout de 3 ou 4 saisons, mais que la série survit à sa propre mort et donc mute. Et ça aussi, c'est une sorte
Ça redevient passionnant.
Et ça redevient passionnant après. Donc ça peut renaître.
Ouais.
Ce qui est passionnant avec la fin de Twin Peaks, c'est quand même que ce cri de Laura Palmer répond au cri de l'inceste de la première saison des années après. Donc ça, c'est passionnant. Et sur The Americans, c'est là où en fait, quand les créateurs savent qu'ils vont devoir terminer une série, ils nous préparent à cette fin. C'est comme dire adieu à quelqu'un qu'on aime encore. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau en fait de savoir se séparer de l'être qu'on aime encore, même si le sentiment amoureux est encore là. Et ça représente ça, la fin de série.
On aime encore Twin Peaks.
On aime encore Twin Peaks.
Il faut voir aussi, mais qu'il y a une façon de gérer la suite qui est intéressante, parce que le deuil, il est très vite. On trouve des façons de l'accompagner, parce que Twin Peaks, Fire Walk With Me qui va nous emmener au début de l'histoire de Twin Peaks. Game of Thrones, il y a le documentaire qui a été diffusé fin mai dans la foulée. Il y a toutes ces versions aussi où on prend un personnage pour recréer un univers. Donc moi je suis assez ambivalente là-dessus. Je trouve que d'une certaine manière, on a la chance de revivre un petit peu avec l'être aimé, mais dans de nouvelles conditions qu'il a définies, mais pas forcément d'accord.
Les journalistes les journalistes du Guardian ont mis en ligne un guide de survie à la fin de Fleabag, que je vous conseille aussi de consulter. Boris Pinot.
Oui, moi je me demande quand même si une bonne fin de série, ça serait pas celle qui justement nous donnerait envie de revoir la série, qui serait justement peut-être un remède.
C'est le cas pour Twin Peaks.
C'est le cas pour Twin Peaks. Ouais, c'est le cas pour Breaking Bad, c'est le cas pour Six Feet Under qui justement assume cette idée de boucle parce que la série démarrait sur Nate qui revenait en voiture dans la maison familiale et se termine sur la fille cadette qui, elle, prend le large en voiture vers New York. Je me demande si cette idée de la boucle n'est pas justement celle qui réussit une fin de série et celle qui serait éventuellement un remède au deuil, justement.
C'est la série infinie, Iris Bray ?
Six Feet Under, oui, je pense que l'épisode final est une manière de répondre à qu'est-ce que c'est que terminer une série, puisque toute la série n'a été que sur le deuil et la perte. Et puis d'ailleurs, c'est aussi l'utilisation de la musique dans cet épisode, c'est déchirant. Mais là, vraiment, on va vraiment vers les larmes. Moi, je préfère quand on reste le sac de larmes et qu'on est juste un tout petit peu secoué.
Ah ouais, maintenant on est très, très secoué. Joseph Gosselin.
Je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire, je crois qu'il ne faut jamais aller jusqu'au bout des choses que l'on aime. Par exemple, les disques que j'aime vraiment, je ne vais jamais jusqu'au bout, je ne vais jamais jusqu'à la dernière chanson. Ou alors, j'aime bien écouter ça de loin. Et pour une série, c'est pareil. Par exemple, on parlait de Lost. J'aimais beaucoup Lost, mais je n'ai jamais regardé le dernier épisode. Mmh. Et lorsque j'en parle avec des gens qui l'ont vu, des gens proches, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils me racontent. Je ne veux surtout pas le comprendre. Mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça continue à faire travailler ce qui a existé, ce qui a été cette relation, et une relation effectivement quasiment amoureuse.
Bon, j'ai jamais vu la fin de Friends, ni celle de Seinfeld.
J'ai totalement oublié. J'ai oublié aussi.
Et Curb Your Enthusiasm aussi.
Ah bah ça c'est en cours.
Cache ta joie, c'est pas fini.
Il a repris.
Parce que moi j'ai vu les 8 saisons.
Ah oui.
Et non, mais voilà,
ça finira
c'est éternel. Il faut dire qu'on finit pas, une série de la même manière selon aussi la typologie de la série. C'est-à-dire qu'une série comme Curb Your Enthusiasm, c'est une série de sketchs infinie. Comment voulez-vous que clôture les aventures de ce
auto-fiction, là,
auto-fiction de ce producteur à Los Angeles qui est capable de mettre par terre un deal parce que le type avec qui il va conclure affaire est passé devant lui au restaurant, lui a pris ses crevettes. Et voilà. Et ça, si vous voulez pas y avoir de fin à ça.
C'est une toute petite fin parce que Iris Bray l'évoquait. Big Little Lies aurait dû être une mini-série.
Ouais.
Elle était absolument conclue.
Elle était parfaite comme ça, mais finalement, cette saison 2, c'est bien. C'est vraiment bien. Là, on est vraiment heureuse que ça reprenne.
Non, mais vous voyez, c'est un autre cas de figure. C'est tellement bien qu'on avait envie que ça continue, mais avec le risque que ce soit moins bien.
Oui, mais si les personnes sont intelligentes, ça se passe bien.
C'est comme dans une relation. Hein. Il faut y retourner, on ne sait pas si ça va marcher.
Joseph Gosne.
Non, en fait, pour
comment la sœur de Goldorak.
Non, pour extrapoler un tout petit peu et pour rester dans le space opéra, il y a une série qu'il faudrait peut-être songer à conclure, c'est Star Wars.
Moi, ça fait longtemps qu'elle est conclue.
Oui, mais elle continue quand même.
Bon, on s'arrête là-dessus parce qu'il faut conclure cette émission. Mais ça, on y arrive assez bien chaque soir parce qu'on a une pendule, vous voyez, qui nous dit que c'est la fin. Et on peut fermer le petit salon, Boris Pinot, vous êtes d'accord ?
C'est la fin, vous l'avez dit.
On ferme le petit salon. Allez, on conclut dans quelques instants, mais d'abord le jeu de la dispute quand même, parce que sinon ça ne va pas. Joséphine Dumoulin, qui est une habituée des conclusions, d'émissions en tout cas, nous rappelle la question du jeudi hier soir, avant de donner sa réponse.
La question était: quel collectif artistique créé en 1989 lançait la carrière des danseurs et chorégraphes Mourad Merzouki et Kader Atou? Et la réponse était Acrorap.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour la rétrospective autour de Teresa Bielaverde jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Quelle est la question, Joséphine?
Dans quel film collectif produit par Lars von Trier, Teresa Bielaverde documente-t-elle l'arrivée de migrants sur les côtes italiennes?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin, prise de son Laurent Binder, Julien Doumac, Bastien Varigo. Réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre. Nous serons avec Lucille Como, Anna Segalevitch et Thomas Corlin. Nous parlerons de La vie de Galilée, de Bertolt Brecht à la Comédie française, dans une mise en scène d'Eric Ruff. Dans ma chambre, d'après le roman de Guillaume Dustan, adapté, mise en scène, interprété par Hugues Jourdain, au Petit Saint-Martin. Un coup de cœur de Thomas Corlin pour Lies de la compagnie Entreren Gut, qu'on pourra voir à Avignon. Un petit salon de Lucille Como, qui sera de retour. Hein. Avec cette question: y a-t-il encore de la subversion sur les scènes de théâtre?
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Dernière ligne droite avant le bac, histoire, philo, économie, littérature, sciences. Révisez le bac avec France Culture. Le fond et la forme, le contenu et la méthode. Tous les sujets, toutes les infos dans un grand dossier spécial à retrouver sur franceculture.fr.
Et une petite pensée pour ma fille aînée qui va passer son bac la semaine prochaine. Du coup. Joséphine Dumoulin, les programmes de la soirée sur France Culture?
À 21h, dans Par les temps qui courent, Marie Richer recevra le musicien Andrew Bird. Juste avant cela, 20h55, les carnets de la création d'Aude Lavigne, consacrés à la philosophe Géraldine Gourbe, qui œuvre pour une réécriture d'une histoire culturelle de la France de 1947 à 1981. 20h30, le cinquième et dernier épisode de Michael Jackson, Man in the Mirror, réalisation Christophe Hockey. Et tout de suite, à voix nue.